VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur VOA Afrique. Il est 13h, temps universel. Tout de suite, un point complet sur l'actualité. On commence bien évidemment par cette prise d'otage en cours au Kenya, dans l'université de Garissa. Le groupe somalien Al-Shabaab a revendiqué cette attaque qui aurait déjà fait au moins 17 morts, selon un bilan provisoire. Les derniers points avec Bagassi Koura.
L'attaque a été lancée ce matin à l'aube par les islamistes somaliens Shabaab contre l'université de Garissa dans l'est du Kenya. Selon la Croix-Rouge kenyane, l'attaque a été précédée d'une explosion. Elle aurait fait au moins une quinzaine de morts et au moins 65 blessés selon le quotidien The Nation de Nairobi. La plupart des blessés l'ont été par balle. La Croix-Rouge fait état d'un nombre indéterminé d'étudiants otages sur le campus. Selon l'AFP, les Shabaab affirment que le commando a laissé partir les musulmans et a gardé les autres en otage. Le ministre kenyan de l'Intérieur, Joseph Nkaiseri, cité par l'AFP, assure qu'un des assaillants présumés de l'université de Garissa a été arrêté. Les États-Unis, par la voix de leur ambassadeur au Kenya, condamnent fermement l'attentat terroriste odieux d'Al-Shabaab à Garissa. Dans un communiqué, Robert Godek assure que les États-Unis sont aux côtés du gouvernement et du peuple kenyan pour mettre fin au fléau du terrorisme.
Et actuellement, le président Uhuru Kenyatta qui vient de déclarer qu'il présentait ses condoléances aux familles des victimes et il prie évidemment pour la suite peut-être heureuse de cette prise d'otage. On vous donnera évidemment des précisions dans la prochaine heure. 9 soldats tchadiens et une centaine de membres de Boko Haram ont été tués hier lors de combats avec les djihadistes près de la ville de Malam Fatori dans le nord-est du Nigeria. C'est ce que déclare aujourd'hui l'état-major de l'armée tchadienne dans un communiqué. Les éléments de la force tchado-nigérienne sont tombés sur une poche de résistance à une dizaine de kilomètres de Malam Fatori après d'intenses combats avec les forces armées du Tchad et du Niger qui ont totalement nettoyé la zone selon le communiqué.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La tension à Ouagadougou entre le Premier ministre et les grévistes. Isaac Zida a accusé ces derniers de vouloir instaurer un climat d'anarchie au Burkina Faso avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le gouvernement assure la transition jusqu'aux élections. Ce gouvernement s'opposera désormais avec fermeté et responsabilité à toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle vienne, a averti M. Zida dans une déclaration radio-télévisée. On reste au pays des hommes intègres où la grippe aviaire fait son retour. Un taux de mortalité important de volailles a été enregistré en février et mars de cette année. Les zones concernées se situent dans les provinces de Kadiogo et Sangihe. Les cas ont été confirmés en laboratoire. À Bangui, procès du ministre du Tourisme Romaric Vomitiadé au tribunal de grande instance de la capitale centrafricaine. Le procureur a requis hier 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs CFA contre le membre du gouvernement en détention préventive depuis plusieurs semaines pour le viol d'une jeune fille mineure. Les précisions d'Anne Albertson.
Le réquisitoire du procureur est tombé au terme d'un procès qui a duré toute la journée. Au moins 6 témoins, dont un à charge, ont été appelés à la barre et le débat a été riche en contradictions. Romaric Vomitiadé est poursuivi pour attentat à la pudeur, consommé avec violence, acte de pédophilie et empêchement à l'émancipation de la jeune fille. Le ministre a plaidé non coupable et sa défense a parlé d'un pur montage pour nuire à sa carrière politique. 5 ans d'emprisonnement ferme et 500 000 francs CFA d'amende requis par le procureur n'ont pas satisfait l'avocat de la jeune fille qui, lui, réclame 20 millions d'amende. Le verdict est attendu le 8 avril prochain. Romaric Vomitiadé est accusé d'avoir abusé fin février d'une jeune fille de moins de 18 ans alors qu'il était à la tête d'une mission de consultation populaire à Yaloké, localité située à quelques 220 km au nord-ouest de Bangui.
La première plage nudiste autorisée d'Afrique doit ouvrir demain en Afrique du Sud. La plage de la réserve naturelle de Mpenjati sur l'océan Indien à 150 km au sud de Durban est le rendez-vous des naturistes de la région depuis une vingtaine d'années. Notez bien que l'événement va être célébré par les amateurs par un week-end de volley-ball et de course en sac, et ce en dépit des oppositions locales.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste de l'actualité, dossier du nucléaire iranien, toujours pas d'accord en vue à Lausanne, en Suisse, entre Téhéran et les grandes puissances. La date butoir du 31 mars pour trouver un accord est dépassée, mais les deux camps restent optimistes ce jeudi. Claire Morin-Gibourg.
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, s'est montré positif ce matin à Lausanne, alors que l'impatience monte dans les rangs des différentes délégations diplomatiques. Les négociations ont fait des progrès significatifs, même s'il n'y a pas encore de résultat final, a-t-il précisé. Ali Akbar Salehi, le responsable des questions techniques au sein de la délégation iranienne, a déclaré un brin poétique « On aperçoit de la lumière à l'horizon ». De son côté, Israël a haussé le ton par le biais de son ministre des Renseignements, Yuval Steinitz, qui a affirmé que l'option militaire restait sur la table face à la menace d'un Iran doté de l'arme nucléaire, affirmant qu'à ce moment-là, Israël n'aurait plus d'autre choix qu'une réponse militaire. Plusieurs experts interrogés par l'AFP conviennent qu'Israël fera tout pour se protéger, mais que l'hypothèse de frappe israélienne sur l'Iran semble très éloignée. À Lausanne, les négociations continuent, mais comme l'a précisé mercredi soir Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, on est à quelques mètres de l'arrivée, quelques dizaines de mètres, mais on sait aussi que ce sont toujours les plus difficiles.
Au moins 32 personnes, dont 15 soldats et 2 civils, ont été tués ce jeudi dans 5 attaques simultanées, selon la police égyptienne. Ces attentats ont lieu dans le nord du Sinaï égyptien, où l'armée combat une branche locale du groupe État islamique. Amnesty International qui va enquêter sur des violations des droits de l'homme qui auraient été commises par les forces irakiennes et leurs alliés dans l'offensive pour reprendre la ville de Tikrit au nord de Bagdad. Les forces de sécurité irakiennes, aidées par des milices chiites et soutenues par des frappes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, ont repris avant-hier pour le contrôle de cette ville qui était depuis près de 10 mois sous contrôle de l'État islamique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Retour aux États-Unis, en Californie, l'État est victime d'une sécheresse sans précédent. Une situation qui a contraint son gouverneur à ordonner une réduction dramatique de l'utilisation de l'eau dans l'ensemble de l'État californien. Les précisions de Jean-Roger Billon.
La directive du gouverneur Jerry Brown fixe comme objectif une réduction de 25% de la consommation du précieux liquide sur les 9 prochains mois. C'est dans une station de ski des montagnes de la Sierra Nevada que M. Brown a lancé son appel. La raison, c'est la fonte annuelle des neiges de ces montagnes qui alimentent les cours d'eau et nappes souterraines de la Californie. Or, cette année, il y a très peu neigé. Nous nous tenons sur la terre ferme là où nous serions en temps normal, sur 1,50 m de neige, a fait remarquer le gouverneur Brown hier. Pour parvenir aux économies d'eau nécessaires, le gouverneur Brown a ordonné l'introduction dans les jardins et parcs publics de la Californie d'espèces végétales plus résistantes à la sécheresse. Les Californiens sont, pour leur part, encouragés à remplacer leurs appareils électroménagers par des modèles plus économes en eau. Par ailleurs, le gouverneur Brown a introduit en procédure d'urgence des mesures devant injecter $1 milliard dans des projets hydrauliques et d'appui aux communautés mises en difficulté par la sécheresse.
Les secouristes russes recherchent des survivants 24 heures après le naufrage d'un chalutier avec 132 personnes à bord dans les eaux glaciales de la mer d'Okhotsk au large de l'extrême-orient russe. Pour le moment, la catastrophe a fait au moins 54 morts. Il s'agit du naufrage le plus meurtrier au cours des dernières années d'un chalutier de pêche dans les eaux russes. Les opérations de secours auxquelles participent 1300 personnes, 26 navires et un hélicoptère ont déjà permis de sauver 63 marins, selon les autorités russes. Le déficit commercial des États-Unis a fortement reculé en février, tombant à son plus bas niveau depuis 5 ans et demi, sur fond de nouveaux reculs des importations pétrolières. C'est ce qu'indiquent aujourd'hui les données publiées par le ministère du Commerce. Chroniquement déficitaire, le solde des échanges des États-Unis avec le reste du monde s'est établi à 35 milliards de dollars en données corrigées et des variations saisonnières chutant de 16,9% par rapport à janvier prochain. Et pour la première fois, conformément aux promesses de transparence de l'agenda 2020, le Comité international olympique a publié ce jeudi le montant des indemnités qu'il a versées à chacun de ses membres et notamment son président Thomas Bach. Le CIO va verser à chacun de ses quelques 115 membres une indemnité journalière de $450 quand il siège et une indemnité annuelle de $7000 pour couvrir les frais administratifs. Le président Thomas Bach, en mission chaque jour de l'année, selon le communiqué, va lui recevoir une indemnité globale de 225 000 euros. La publication de ces chiffres avait été proposée par la commission d'éthique du Comité international olympique dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, selon le cadre du nouveau président Thomas Bach, et elle avait été publiée en décembre dernier. Voilà, c'est tout pour ce point sur l'actualité. Vous écoutez VO Afrique. Rendez-vous à 14h, temps universel, pour un prochain point sur l'information.
Soyez au cœur de l'info sur